d'oublier les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, nous sommes de retour sur l'antenne. Donc, nous vous rappelons ce que nous vous avions annoncé au mois de septembre. Nous sommes présents maintenant deux fois par mois, donc deux mardis par mois, le deuxième et le dernier mardi de chaque mois. Donc, c'est ce soir, 11 octobre, et la prochaine émission, je vais le dire tout de suite, ce sera le 25 octobre. De 19h à 20h pour le direct. Et je vous rappelle aussi que les podcasts sont disponibles sur le site de Principe Actif. Donc, le groupe Amnesty International, nous sommes là pour vous parler des droits humains, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Mais je suppose qu'il n'y a plus personne à Évreux qui ne nous connaît pas. Donc voilà, on est là pour vous parler des droits humains.
À Évreux et ailleurs.
À Évreux et ailleurs. Et avec moi ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Patrice.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Est... Voilà, on est très nombreux ce soir. Il y a Ronan qui est derrière les manettes comme d'habitude.
Bonsoir.
Et il y a moi.
Didier.
Voilà, merci. Donc ce soir, nous allons vous parler bien sûr de la peine de mort, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'hier c'était la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort. Et comme a dit quelqu'un que j'ai entendu à la télévision dimanche dans une émission où était invité Amnesty, l'abolition de la peine de mort, ça fait partie de l'ADN de l'ONG Amnesty, et je crois qu'on ne peut pas mieux dire les choses, effectivement, et que nous continuons à lutter pour la disparition complète de ce châtiment inhumain et cruel qui s'appelle la peine de mort. Donc c'est Patrice qui va vous en parler, il y en a un petit enregistrement à vous passer, enfin vous allez voir. Il y a Françoise qui va vous parler du droit des femmes. Il y a Edith qui va vous parler de l'actualité en Russie, de l'actualité en Indonésie, qui va vous parler aussi des réfugiés avec Claire-Lise. Et puis il y a différentes informations qui vous seront données, et aussi nos informations locales qui vous seront passées. Bref, on a pas mal de choses à vous dire. Et quelques bonnes nouvelles, bien sûr. Et aussi un appel à l'action qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois, mais qu'on a repris pour ce mois-ci. Et puis, on va commencer. Oui, alors je voulais vous dire quelques mots en introduction par rapport à un drame dont vous êtes tous au courant.
Parce que je pense que, oui, effectivement, à la dernière émission, on a tous fini la dernière émission en se disant « Mais on n'a pas parlé d'Alep ». Et déjà, oui. Alep, c'était l'actualité il y a 15 jours.
Voilà. Donc, effectivement, je voulais dire quelques mots sur l'actualité Alep. Bon, inutile de vous dire, effectivement, qu'il se vit un drame là-bas absolument épouvantable. Que certains qualifient de... Enfin, c'est au moins un crime de guerre sous l'égide principalement des aviations russes et syriennes. Encore une fois, bon, le propos d'Amnesty n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort dans ce genre de choses. Ce n'est pas notre problématique. Notre problématique, c'est de dire effectivement comment on en est arrivé là, à cette catastrophe, et comment nous, on est malheureusement, évidemment, à l'extérieur. Donc on regarde de façon un peu impuissante les femmes, les enfants et les hommes se faire massacrer là-bas à coups de bombes. J'entendais qu'il y avait même des bombes mises au point par les Russes apparemment qui permettaient de faire exploser les abris anti-aériens ou de percer les protections. Enfin, on en arrive à des situations d'armement qui sont absolument tragiques. Et donc la question qui revient souvent quand on parle de ça, qui est aussi, on en reparlera par rapport aux réfugiés, mais une des grandes causes pourquoi effectivement est-ce qu'il y a tant de demandes de réfugiés syriens à l'heure actuelle en Europe, eh bien évidemment que c'est la guerre qui en est principale responsable, même si ce n'est pas la seule, et que si on avait fait des actions avant par rapport au gouvernement de M. Bachar el-Assad, qui est dénoncé par Amnesty depuis très longtemps, encore une fois, on n'a pas attendu que les choses dégénèrent là-bas en guerre civile pour s'alarmer sur les atteintes aux droits humains de M. Bachar el-Assad.
On n'a même pas attendu le mouvement des citoyens... voilà, donc même avant, on voulait qu'il y ait des enquêtes, voilà, du temps de son père. Donc c'est ça la problématique.
Complètement. Moi, j'avais regardé il y a des années, il y a des dossiers d'Amnesty qui datent depuis le début des années 70 sur la Syrie, donc c'est très vieux. Mmh. Et si on avait agi effectivement en amont de tout ça, enfin si l'ONU avait agi et si les États, la communauté internationale avait agi en amont de tout ça, on ne serait pas dans une situation aussi dramatique là-bas. On pourrait même imaginer qu'il n'y ait même pas de guerre du tout. Et donc, effectivement, c'est encore une fois les conséquences. Alors bon, la question qui revient souvent, je l'ai entendu dans mon entourage et ailleurs, c'est de dire « oui, mais bon, on est réduit à l'impuissance ». Alors c'est sûr qu'encore une fois, On n'est pas là-bas, on ne peut pas aller là-bas pour prendre les gens par la main et les faire venir chez nous. Ce n'est pas l'envie qui nous en manque, mais c'est complètement irréaliste. Mais de façon, alors comment on peut agir nous? Nous, c'est toujours effectivement, c'est d'abord en dénonçant ces crimes, de façon en le répétant, à travers tous les moyens qu'on a, les plateformes, en le répétant ici à la radio, en le répétant dans nos manifestations, en le répétant partout, en se mobilisant par rapport à ça, effectivement, en faisant pression. Plus on en parle, plus on fait pression, plus malgré tout, même si c'est toujours, ça va toujours moins vite que ce qu'on espère, les choses bougent un peu et les choses avancent. L'ONU a quand même dénoncé, enfin certains composants de l'ONU ont évoqué le fait de qualifier les frappes des Russes et de l'armée de Bachar el-Assad comme crimes de guerre. Bon, voilà. Et donc, il y a quand même des choses qui avancent. Ça ne remplace pas la vie des gens qui sont massacrés, on est tous d'accord. Mais après, bon, au-delà de la dénonciation qu'on peut faire, c'est aussi le travail qu'on fait, nous, constamment, justement, pour la défense des droits humains.
Mais là, c'est vrai, je crois, Didier, que ce qu'on ressent tous, c'est vraiment une impuissance très, très importante. Parce qu'en plus, là, il y a vraiment sciemment des hôpitaux de visée. Il y a vraiment des endroits qui sont logiquement, même dans les conflits les plus durs, des endroits qui sont sauvegardés et qui sont sauvegardés par les protagonistes, on va dire, sans parler... voilà. Et ça, c'est vraiment dur de ne rien pouvoir faire. Et de laisser des gens se faire massacrer. Je crois que voilà, cette impuissance, moi, c'est quelque chose qui m'est compliqué à.
Non, mais bien sûr.
Et on aurait presque envie que tout le monde sorte et manifeste. Et, que on...
et puis, au fait, au bout, tu vois l'autre rigolo, l'autre pas rigolo de Poutine, là, qui continue à faire ses manœuvres juste aux portes de l'Europe avec ses missiles à.
Vas-y, lance ton coup de gueule.
De tête nucléaire. Non mais c'est vrai.
Mais je donne raison.
Il fait comme quand il a envahi la Crimée, il recommence. Là, il fait des comment ça s'appelle, des manœuvres militaires et il installe des missiles à portée de tête nucléaire ou je sais pas comment ça s'appelle exactement. Dans le cadre de ces manœuvres, pour essayer de faire pression sur l'Occident, pour qu'ils acceptent ce qu'ils sont en train de faire en Syrie.
C'est du jeu,
c'est quand même
celui qui impressionne le plus,
au risque de faire rééclater les Balkans.
Ah, mais il a un ego énorme.
Oui. Mais ça rappelle des trucs. Hein.
Enfin, là aussi, effectivement, Carly, tu as tout à fait raison par rapport à Poutine. C'est pas faute de dénoncer les exactions commises par le gouvernement russe depuis des années et des années. L'amnistie non plus n'arrête pas de travailler sur ce dossier-là. Encore une fois, bien sûr, travailler sur un dossier, ça ne veut pas dire qu'on aura les solutions tout de suite ou rapidement. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais il n'y a pas d'autre solution, enfin, il n'y a pas d'autre perspective que de dénoncer ça. Et encore une fois, un petit rappel, hein, Poutine, il faut appeler aussi un chat un chat. Poutine, effectivement, obtient des scores majoritaires à chaque élection parce que les élections en Russie sont truquées.
On va dire,
il y a des bourrages d'urnes systématiques.
Les Russes, ils ont peut-être beaucoup de sources d'informations qui ne soient pas étatiques. Mmh. J'ai un peu l'impression des fois.
Il y a une section d'amnistie en Russie qui existe toujours, qui a beaucoup de difficultés, mais qui existe toujours, qui essaye de faire passer des informations différentes.
Voilà. Ils sont atteints de l'étatique, c'est.
Ils sont un petit peu de
l'état tixé.
Et puis bon, pas trop, ils savent pas trop, donc voilà. Mais moi, je pense que Renan va intervenir là par rapport à la situation en Syrie, parce que ce soit le gouvernement ou la Russie, pour bombarder, pour envoyer des armes sophistiquées, il n'y aurait pas eu un traité quelque part?
Si, il y a eu le fameux TCA, le traité contre les armes.
Voilà, donc il y a quand même aussi savoir d'où viennent toutes ces armes. Bon, la Russie, c'est tranquille, c'est chez eux, ils utilisent ce qu'ils veulent, celles qui cassent le plus gros béton et tout, là, pour l'instant, ils se font plaisir. Mais la Syrie, des fois, il y a eu des ventes, on ne sait pas trop...
Ouais.
Là aussi, effectivement, s'il y avait des normes d'appliquer par rapport à ça, effectivement, il y aurait moins de latitude pour les États.
Et on saurait d'où ça vient.
Voilà. De se procurer ces armes-là et après de massacrer leur peuple et de massacrer leurs propres hôpitaux.
Ce qui se passe au Yémen aussi avec l'Arabie Saoudite, où tu as les Russes aussi, je ne veux pas dire qu'ils sont aussi derrière au niveau des armes.
C'est-à-dire que les grands du monde s'amusent bien et au détriment des gens.
C'est vrai que le Yémen, on n'en parle pas beaucoup. Mais
on en a parlé il n'y a pas très longtemps.
Ouais, on en a parlé, mais il faut parler du Yémen. Edith
en avait parlé, puis on reviendra dans nos prochaines
émissions. Non, je sais bien qu'Edith en a parlé, mais je trouve qu'au niveau des médias, c'est vrai, la Syrie,
oui,
c'est
que
ce qui se passe.
Mais au Yémen,
ce qui se passe actuellement, les gens ne sont pas trop... Quand j'en parle autour de moi, tout le monde a bon, le Yémen, il y a quelque chose.
Oui, c'est moins médiatisé, c'est sûr.
Et puis c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi les endroits où les gens qui sont bombardés sans problème,
ce que j'avais envie, enfin, moment de ma pensée, ce que j'avais envie un peu de dire, c'est de dire c'est ce qui fait notre caractéristique à Amnesty. On est mieux placé pour parler d'Amnesty que d'une autre ONG qui s'occupe de droits humains. Encore une fois, on n'est pas les seuls.
C'est l'émission d'Amnesty.
Puis c'est l'émission d'Amnesty, c'est sûr, mais c'est de dire de transformer notre indignation et notre colère en action. Et nous, effectivement, on agit tout au long de l'année. Alors, avec bien sûr, encore une fois, on aimerait beaucoup que ça aille beaucoup plus vite. On aimerait, comme dit Edith, effectivement, que les pays n'aient plus la possibilité matérielle de bombarder les hôpitaux, parce que c'est quand même quelque chose chose qui est particulièrement ignoble. Ouais. Mais bon, c'est en agissant, c'est en se mobilisant, c'est en militant qu'on fait bouger petit à petit le cocotier, si je puis dire, et que les choses avancent. Voilà, sinon une révolte qui se contente d'une simple colère devant son poste de télévision quand on voit les informations, bah, c'est sûr que ça soulage, mais que ça permet pas de faire grand-chose de positif après.
Voilà. Et en parlant de la Russie, moi j'ai une petite pensée pour Anatolia Politkovskaya, qui est comme...
Politkovskaya.
Ah, j'ai toujours du mal.
Anna.
Non, j'ai une petite pensée, parce que c'est vrai qu'elle était journaliste, elle défendait les droits humains là-bas, elle était quand même abattue le 7 octobre 2006, donc il prouve qu'en Russie, quand on parle trop... Ça fait 10 ans qu'elle est abattue, c'est 7 ouais. octobre. Donc j'ai une petite pensée pour elle, c'est vrai qu'on va nous dire qu'on en veut à Poutine, mais quelque part, ouais. bon, j'ai une petite...
Et puis,
c'est un coup de gueule aussi. Ouais.
Et puis, comme on a beaucoup parlé de Poutine, bien sûr, par rapport à ce qui se passe à Alep et de Bachar el-Assad, ce qui est évident, enfin, ce qui me paraît évident, enfin là, j'anticipe un peu ce que va décider Amnesty, mais c'est pas bien dur à deviner. Et il est évident qu'Amnesty va très rapidement demander à ce que ces gens-là soient poursuivis pour crimes de guerre, c'est clair. Un petit rappel que je fais aussi, parce que ça, on l'oublie aussi, ça n'a jamais été beaucoup médiatisé. Par rapport à d'autres exactions un peu plus anciennes, comme ce qu'ont fait les Américains en Irak, enfin le gouvernement américain en Irak, bien évidemment, et l'armée américaine en Irak, Amnesty est toujours la seule organisation de défense des droits humains qui continue à demander l'arrestation pour crime de guerre de M. George Bush Jr. Donc ça, on continue à le faire, bien sûr. On n'imagine pas que ça arrivera un jour, mais on continue à le faire et on imagine bien que c'est les mêmes genres de décisions, enfin d'options qui vont être prises par Amnesty vis-à-vis de M. Poutine, de M. Bachar el-Assad, qui sont effectivement des gens qui seraient beaucoup mieux de derrière les barreaux de la CPI qu'en liberté à l'heure actuelle. Je m'arrête parce qu'on me dit que j'ai déjà...
Non, je pense que c'est important. Et puis
c'est pour informer les auditeurs qu'on me chronomètre pour voir combien de temps je
pars. Tu vas pas dire qu'on ne te met pas une arme sous... Non.
Et on attend aussi de savoir les auditeurs de Principes Actifs, comment ils se sentent par rapport à des situations compliquées pour des militants. Effectivement.
Complètement. On vous rappelle que sur le site où il y a nos émissions, Amnesty International principesactifs.net, vous avez la possibilité maintenant sur le nouveau site de laisser vos commentaires. Donc si vous nous écoutez, que vous avez envie, postez vos commentaires sur le site.
Même sur l'adresse mail, c'est peut-être plus simple.
L'adresse mail aussi, bien sûr.
Voilà, vous pouvez nous trouver, c'est pas
amnesty.evreux@gmail.com. Voilà. Maintenant, il était question hier, on a fait une petite transition un peu rapide, mais il était question, quoique on a parlé beaucoup de morts avec ce qu'on vient de dire. C'était la journée hier de la...
Ah, c'est gay tes transitions.
Non, mais bon, c'est vrai. Un deuxième sujet un peu difficile, les droits de l'homme, c'est aussi des sujets difficiles, hein, c'est sûr. Pas toujours, mais souvent. C'était donc hier la journée internationale pour l'abolition de la peine de mort, et je crois qu'on a un petit enregistrement qui a été fait, et que Ronan va vous passer. C'est l'audio d'une vidéo que vous trouvez sur le site d'Amnesty depuis hier.
Voir pour comprendre la peine de mort. La définition de la peine de mort est la suivante. La peine de mort, ou peine capitale, est une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. Elle est infligée à une personne reconnue coupable d'un crime passible de cette peine à l'issue d'un procès organisé par une juridiction légale appartenant à un État dont la législation prévoit ce châtiment. Ok, bon, dit comme ça, mais en fait, en y regardant plus près, je me rends compte que c'est tout simplement un assassinat étatique. Oui, un meurtre commis par l'État avec préméditation, de sang-froid et infligé au nom du peuple tout entier. Pas la peine d'y aller par quatre chemins, c'est un châtiment cruel, inhumain et dégradant. Comme la torture, une exécution, c'est une agression physique et mentale poussée à l'extrême. La cruauté de la peine de mort, c'est non seulement l'exécution elle-même, mais aussi l'attente qui la précède, pendant laquelle le prisonnier est confronté en permanence à la perspective de la mort. Dans certains pays, comme les États-Unis ou le Japon, les condamnés sont exécutés après des années de détention, parfois 30 ans. 30 ans de torture psychologique. Et pourtant, un des droits de l'être humain, nous dit l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est, je cite, « de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Bingo ! La peine de mort avec son cortège d'horreur est sans conteste une aberration. Parce qu'au-delà des textes, il y a la réalité, comme les méthodes d'exécution. Et c'est vraiment pas beau à voir, mais il faut faire face parce que c'est la réalité. La décapitation, couper une tête bien vivante avec un sabre ou une guillotine, l'électrocution sur la chaise électrique, l'injection létale, présentée comme la méthode la plus humaine, on croit rêver, une série de trois injections, une pour endormir, une pour paralyser les muscles et une pour provoquer un arrêt cardiaque, la lapidation, très ancienne tradition, avec des pierres de la taille d'une mandarine, pas trop petite pour être efficace, mais pas trop grosse non plus pour que la mort ne survienne pas trop vite, Le peloton d'exécution, attaché à un poteau, une marque dessinée sur la poitrine pour désigner le cœur et un coup de grâce dans la tête. La pendaison, l'un des plus anciens moyens d'exécution. Bref, vous l'avez compris, c'est effroyable. Sans oublier le contexte d'exécuter un innocent. Et oui, car l'être humain est faillible, le risque de commettre une erreur judiciaire est toujours présent. Et une fois que l'exécution a eu lieu, eh bien, impossible de faire marche arrière. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas punir un acte criminel. Au contraire, il faut punir pour que le criminel puisse s'amender et être ramené dans le droit chemin. Avec la peine de mort, peu de chances qu'il retrouve le chemin. La peine de mort, c'est une solution brutale et simpliste qui ne fournit qu'une réponse superficielle à la souffrance de la famille de la victime et qui, en plus, étend cette souffrance aux proches du condamné. C'est l'expression tragique d'une culture marquée par la violence, certainement pas un remède à ce fléau, bien au contraire. Il faudra m'expliquer après, droit dans les yeux, ce qui justifie de faire ça à un autre être humain. En même temps, je les connais les arguments pour justifier toute cette horreur. Aucun ne tient debout. C'est une façon de se faire justice ? On parle de vengeance, une vendetta quoi, eh bien non. L'élimination d'un meurtrier n'a jamais réparé son crime, ni ressuscité sa victime. Tuer les agresseurs n'est pas défendre les agressés. Il paraîtrait qu'elle est dissuasive. Les chiffres sont parlants, l'existence de la peine de mort ne réduit pas plus le nombre de crimes que l'abolition ne la croit. Écoutez ce que disait Robert Badinter dans son discours à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Ça tombe sous le sens.
Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien, vous n'auriez pas, à la minute où nous sommes, ni grands soldats, ni grands sportifs, nous les admirons, mais ils n'hésitent pas dans la mort. D'autres, emportés, n'hésitent pas non plus. Seuls pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact.
La peine de mort empêcherait la récidive ? Ah, c'est clair, mais à quel prix ? Et quelle brutale simplification ! Une politique judiciaire ne peut pas tabler sur le seul fait que les morts ne peuvent plus commettre de crimes. Ça repose sur l'hypothèse que l'État peut déterminer, lors de la sentence, quels prisonniers vont récidiver, ce qui suppose que l'humain est une mécanique prévisible. La peine de mort est efficace contre le terrorisme, comme si elle pouvait avoir un effet dissuasif sur quelqu'un qui a décidé de mourir pour servir sa cause. La suprématie de l'idéal du terroriste sur la vie humaine, que ce soit la sienne ou celle de ses victimes, le rend insensible à cette menace. En plus, son exécution en fait un martyr qui galvanise les troupes. Utiliser la peine de mort contre les terroristes, c'est faire nôtre leur méthode. Un comble pour une démocratie, non ? Rien ne justifie la cruauté de la peine de mort. Son abolition est impérative et aucune exception n'est envisageable. Comme tout droit, le droit à la vie est indivisible. C'est tout ou rien. Plus de 60 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la tendance mondiale en faveur de l'abolition de la peine de mort est indubitable. Les consciences s'éveillent. Les décisions politiques allant dans le sens de l'abolition sont de plus en plus nombreuses. Plus de 2/3 des pays dans le monde l'ont quand même compris et ont aboli dans leur législation ou en pratique la peine de mort. Mais il reste encore des pays qui la pratiquent, et pas des moindres. 95% des exécutions dans le monde se déroulent dans 5 États, qui sont l'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, l'Iran et le Pakistan. Et ça ne vous aura pas échappé que certains sont à toute l'étape des grandes décisions pour l'avenir du monde. Rassurant, hein ? Le champion, c'est la Chine. Il y avait même des témoignages de journalistes, d'hommes politiques et dissidents chinois qui dénonçaient la multiplication des prélèvements d'organes sur les condamnés à mort. Les exécutions auraient eu lieu en fonction de la demande d'organes. En Iran, la peine de mort est appliquée dans les cas d'homicide, de vol à main armée, de viol, de blasphème, d'apostasie, de conspiration contre le gouvernement, d'adultère, de prostitution, d'homosexualité et des délits liés à la drogue. Il s'avère que de nombreuses personnes exécutées pour les délits communs, et notamment pour les délits liés à la drogue, sont en réalité des opposants politiques. Tiens, tiens. Le Japon est, avec les États-Unis, l'Inde et Taïwan, l'un des seuls pays démocratiques à pratiquer la peine de mort. Celle-ci est prévue dans la loi de procédure pénale et dans le code pénal pour 13 délits, mais en pratique, elle est appliquée seulement pour l'homicide. Actuellement, aux États-Unis, plus de 3000 personnes se trouvent dans le quartier des condamnés à mort. Si de nombreux acteurs politiques et législateurs des États-Unis ont remis en cause la peine capitale, le gouvernement fédéral s'accroche fermement à sa position anti-abolitionniste. Dans le monde, il ne faut pas perdre de vue que le plus souvent, la sentence de la peine de mort ne se décide pas uniquement en fonction de la nature d'un crime. L'origine sociale et ethnique, les moyens financiers ou l'opinion politique de l'accusé font dangereusement pencher la balance. C'est donc ça la justice ? Et la France dans tout ça ? La peine de mort, qui existait depuis l'époque gallo-romaine, a été abolie en 1981 sous la présidence de François Mitterrand par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Robert Badinter. Il a fallu 2 siècles de combat pour en arriver là. Le dernier condamné exécuté a été Hamidat Jandoubi, un immigrant tunisien condamné à mort en 1977 pour homicide et guillotiné dans la cour de la prison des Baumettes le 10 septembre 1977. C'est la dernière personne à avoir été exécutée dans les pays de la Communauté économique européenne. Mais la loi d'abolition du 9 octobre 1981 n'a pas clos le débat. Régulièrement, des hommes politiques de premier plan se prononcent en faveur du rétablissement de la peine capitale, surtout à l'occasion d'affaires criminelles ou terroristes qui marquent les esprits. Un changement de cap qui serait très compliqué, puisque l'interdiction de la peine de mort résulte en France tant de la loi que de la Constitution et de textes internationaux. Dans ces conditions, aucune loi votée par le Parlement ne pourrait rétablir la peine de mort, sauf à modifier la Constitution et à dénoncer les textes internationaux ratifiés par la France. En outre, pour entrer dans l'Union européenne comme pour y rester, il faut avoir totalement aboli la peine de mort. Extrêmement compliqué donc, mais pas impossible. La vigilance est toujours de mise, il faut garder un œil sur la situation. Les États qui choisissent l'abolition emploient des voies différentes. Certains d'entre eux suivent des voies politiques et modifient leur constitution comme la France, la République d'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Mexique ou encore la Belgique. D'autres proclament des moratoires, ou d'autres encore se sont tournés vers des voies judiciaires comme l'Ouganda. La plupart des pays qui ont traversé des périodes difficiles au cours de leur histoire ont su abolir la peine de mort, comme par exemple l'Afrique du Sud, qui a aboli la peine de mort en se dotant d'une nouvelle constitution après l'apartheid. La marche vers l'abolition est réelle, même si elle est lente. C'est toujours trop lent lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, de justice ou de barbarie. Et ce combat ne peut pas et ne doit pas être mené seulement au niveau des gouvernements et des instances internationales. C'est un combat qui concerne chaque être humain à la place où il se trouve. Et pour se souvenir de ne pas oublier les conséquences effroyables de la peine de mort, rien de mieux que les paroles d'un homme qui n'a jamais fermé les yeux, Albert Camus. Ni dans le cœur des individus, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que la mort ne sera pas mise hors la loi.
Donc, après ce petit commentaire tout à fait complet, ce petit tableau fait par Amnesty France que vous avez encore une fois sur le site d'Amnesty International, amnesty.fr, il y a Patrice qui va vous faire quelques commentaires complémentaires sur ce dossier. Simplement, nos petites excuses, on a eu un petit souci technique pendant la diffusion de la vidéo. En même temps, l'enregistrement a sauté pendant quelques secondes. On est vraiment désolé, mais on n'est pas du tout responsable de ça.
C'est quand même bon, parce que si tu arrives à passer des vidéos à la radio, toi...
Pardon, le son de la vidéo.
Tu t'es grillé.
Oui. Donc voilà, Patrice.
On appelle ça de l'audio, mais bon.
Patrice, oui.
Rebonsoir. Alors, bien sûr, derrière ce que vous venez d'entendre, je ne vais pas faire de grands commentaires, juste un petit article et on va passer à un quiz entre nous. Voilà, au début du XXe siècle, il n'y avait que 3 États, hein, le Costa Rica, Saint-Marin et le Venezuela, qui avaient aboli de manière définitive la peine capitale pour tous les crimes. Depuis, 140 États ont aboli la peine de mort en droit ou dans la pratique. Mais il en reste encore 58. Au niveau de 58 pays du globe maintiennent ce châtiment. Moins de la moitié de ces pays ont procédé à des exécutions en 2015. Eh bien, j'ai devant moi la planisphère avec des couleurs.
Et tu ne vas pas nous demander les 144 états, j'espère.
Ces
144 états, je ne les ai pas tous en tête.
Petit questionnaire, on démarre. Il y a un petit pays en Europe, pays de petite taille, qui est non abolitionniste. Lequel ?
Le seul en Europe, et on a déjà fait une campagne.
La Suisse, non ?
Non, ça commence par un B.
Biélorussie.
Biélorussie.
Oui, maintenant, ça fait partie de l'Europe, maintenant, c'est vrai qu'avec...
Oui, oui. Voilà.
Mais les Suisses, ils font jamais rien. Ils sont toujours en dehors.
Mais ils sont neutres.
Et l'Inde, enfin, l'Inde.
Non, mais j'ai appris qu'ils étaient neutres à l'école, mais bon.
L'Inde est la plus grande démocratie du monde. Elle se range dans quel camp?
L'Inde a repris des exécutions, si j'ai bonne mémoire, l'année dernière. Je crois qu'elle a dû exécuter quelques condamnés.
Il a pidé un peu là-bas, quand même.
Mais j'en sais pas beaucoup plus.
Les crimes d'honneur. Oui,
tu sais.
Non, l'Inde est carrément non abolitionniste.
Voilà.
Il n'y a pas de. Voilà. Donc, alors, oui.
Tu ne penses pas nous avoir comme ça, quand même.
Oui, Et au Brésil, par exemple, qui est un grand pays dont on parle beaucoup, il y a eu les Jeux olympiques.
Est-ce que le Brésil est abolitionniste ou pas?
Ah, ça, c'est une très bonne question, par contre.
Moi, je pense qu'il doit être abolitionniste dans les faits, mais peut-être pas en droit, mais je ne suis pas sûr à 100% de ma réponse.
Ben, en fait, il est classé, il n'y a que 6 pays dans ce cas-là, au niveau du monde. Il est abolitionniste pour les crimes de droit commun.
Ah oui.
Voilà. Donc, par contre, si ça concerne la... les crimes contre la sûreté de l'État, choses comme ça.
La trahison.
La peine de mort peut encore être appliquée.
Tout à fait.
Voilà. Je ne pense pas que c'est un pays qui l'a utilisé depuis pas mal d'années. Je n'ai pas entendu parler. En tout cas.
Ils doivent avoir des côtés obscurs de la force quand même.
Oui.
Des petites milices là, qui s'occupent
des
favelas, tout ça.
Oui, je suis d'accord. Mais c'est des assassinats.
C'est des meurtres.
Et qu'en est-il concernant le Mexique?
Bah, à part le fait que c'est un État qui est gouverné par les trafiquants de drogue, mais à part ça... je pense qu'il est abolitionniste.
Oui, il est légalement abolitionniste. Voilà. Est-ce que vous en voulez?
Je te rejoins un peu là-dessus.
Ils ont d'autres moyens d'éliminer les opposants.
Enfin, là, c'est...
C'est pas peine de mort, assassinat, on va dire.
Bon, une dernière question, Patrice.
Disparition, oui. Il y a beaucoup de femmes qui ont disparu.
On va aller en Afrique.
Allez, en quelle année la France a aboli la peine de mort?
Il y a 35 ans.
Je m'en souviens.
J'ai donné un indice il y a 35 ans.
Je m'en souviens très bien, puis c'est dit dans le son tout à l'heure.
Tout à fait.
Bon, Patrice, on a coupé la parole à Patrice.
Oui. En Afrique, au hasard, l'Algérie, tiens.
Bonne question.
L'Algérie.
Je pense que c'est un pays abolitionniste. Mais c'est pas sûr.
Abolitionniste en pratique.
En pratique, pas en droit.
Voilà,
c'est ça. La loi n'a pas changé, mais il n'y a pas de condamnation à mort.
Voilà, tout à fait.
Enfin, bon. Tant qu'ils n'ont pas décidé d'en faire.
Ils pourraient toujours. Mmh. Voilà.
Bien.
Bon.
Ok.
Donc oui, on recommande d'aller voir.
Il faut voir la petite vidéo parce que c'est vrai que vous avez entendu le son et derrière les petites images et c'est sympa et tout à voir.
Non, c'est très bien fait.
Justement, on a eu une discussion pendant avec Kerlis là qui, c'est vrai. Bon. Après, il y a du pour du contre. C'est vrai. Allez voir la vidéo.
Alors, on va passer sur un sujet un peu plus positif que la peine de mort qui était quand même un petit peu ardu. Avec Françoise qui va vous parler du droit des femmes.
Voilà. Et alors, aujourd'hui, le 11 octobre, c'est la journée internationale des filles. Voilà.
Donc, on va vous laisser.
Je crois que non.
Donc, il y a eu un témoignage émouvant ce midi sur la télévision française d'une jeune femme originaire du Bangladesh et qui a dû fuir sa famille parce qu'on voulait la marier à un personnage important. Elle voulait, elle, faire des études et tout ça. Et donc, cette jeune femme, j'ai oublié son nom, mais elle milite maintenant. Et elle va, je crois, donner une conférence à l'ONU, enfin participer à une conférence, pour dénoncer justement ce qui se passe au Bangladesh et dans d'autres pays aussi. Voilà. Donc, il est important aussi, vous le pensez bien, que les filles aient le droit à leur juste...
Leur libre choix.
Bien sûr.
Et s'opposer au mariage forcé.
Voilà.
Et là-bas, s'il y a des mariages forcés et qu'elles refusent, elles peuvent être poursuivies, violées, tabassées, assassinées.
Assassinées, oui.
Voilà.
Mmh. Alors, autre chose maintenant dont je voudrais vous parler, c'est ce jeune réfugié. Alors ça n'a rien à voir avec le droit des femmes, mais c'est...
Mais est-ce que je peux passer une petite bonne nouvelle par rapport à ce que tu as dit? Parce que justement, il y a comme un pays, il y a quand même une bonne nouvelle par rapport au droit des filles. Alors justement, je n'ai pas prévu un quiz. Alors, qui sait où se trouve le Kirghizistan?
Là-bas, à l'est.
Ah ben oui, dans
l'est. Asie centrale.
C'est avec tous les pays en temps.
Voilà. Au-dessus de l'Afghanistan.
Bah justement, le Kirghizistan fait un important pas en avant pour les droits des filles. Une nouvelle loi visant à aider à protéger les adolescentes contre les mariages forcés et précoces au Kirghizistan a été adoptée en troisième et dernière lecture par le Parlement mercredi 5 octobre. Donc, il y a quand même dans certains pays où ça bouge. Donc maintenant, c'est un mariage forcé là-bas. Les gens peuvent être poursuivis jusqu'à 5 ans de prison et tout ça. Donc, c'est un début, mais ça bouge. Voilà,
les habitudes changent.
Ce qui est quand même un minimum.
Ah bah oui, tout à fait. Mais bon.
Comment peut-on forcer quelqu'un à se marier ?
Alors, je voulais vous parler de la Pologne. Car dernièrement, vous avez peut-être su qu'il y a eu des manifestations en Pologne.
Oui.
Pour protester contre l'avortement. Et vraiment,
durcissement de la loi pour interdire l'avortement.
Oui. Excusez-moi. Bon. Et finalement, les hommes politiques ont agréé. Comment dirais-je ?
Ont accepté que la loi soit retirée,
oui,
que le projet
ça,
de loi soit retiré.
Soit retiré grâce à la très forte mobilisation contre un projet de loi qui est menacé de restreindre encore davantage le droit à l'avortement en Pologne, le rendant du fait quasi impossible, le Parlement polonais a finalement fait volte-face en décidant de le rejeter.
Alors, vous ne voyez pas, mais notre pauvre Françoise, elle est tombée, oui. Elle a son bras dans un dujarrier,
oui,
et elle se bagarre avec son casque qui tombe et ses feuilles qu'elle n'arrive pas à tourner d'une seule main.
Elle a beaucoup de mérite pour être avec nous ce soir.
Et voilà ce que dit la directrice adjointe du programme Europe d'Amnesty International. Les Polonaises ont pu changer le cours de l'histoire. C'est une immense victoire pour les millions de jeunes femmes et de jeunes filles qui se sont mobilisées, qui ont exprimé leur colère et qui ont réussi à bloquer une proposition de loi qui les aurait privés de leurs droits et aurait mis leur vie en danger. Voilà, donc ça, c'est un point quand même très positif. Bon, je voudrais aussi vous proposer, sur un autre sujet, une pétition qui est sur le site d'Amnesty. Elle concerne, alors ça va introduire ce dont va vous parler Claire Lise, là, sur les réfugiés. Il s'agit d'un jeune réfugié syrien, Nohori, qui doit être expulsé de Grèce vers la Turquie. Et on vous demande, si vous le souhaitez, de signer la pétition auprès du président de la République française, qui lui-même a signé
un vilain accord.
Voilà.
Qu'on a dénoncé.
Qu'on a déjà dénoncé, effectivement. Alors, on a parlé déjà à la radio, mais entre l'Union européenne et la Turquie pour expédier des réfugiés chez nous vers la Turquie.
Oui.
Voilà.
Donc, vous trouverez sur http://www.amnesty.fr/stop-expulsion.
Oh, tu sais que tu peux résumer, tu dis amnesty.fr, ça suffit.
Ils verront. Voilà.
Oui, donc, faut signer la pétition, c'est important, hein, vis-à-vis de Monsieur le Président de la République.
Qui serait expulsé depuis l'accord avec la Turquie et l'Union européenne.
Tout à fait.
Voilà.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir.
Ah bah c'est très bien.
D'accord. Bah, merci Françoise qui a été bien méritante avec ses soucis de santé. On va peut-être faire une pause musicale, on n'en a pas encore fait, on est arrivé à la moitié de l'émission, donc il est grand temps.
Musique.
Yeah.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, le groupe d'Evreux, pour vous parler des droits humains. Et donc là, c'était, je vais vous annoncer un disque, c'était pas ce qui était prévu, Renan a inversé le disque.
On a failli se battre dans la peau,
ils ont failli crier tous les deux,
c'est
les gars.
C'est pas grave.
Donc, oh là là, donc on vient, c'était pas
on vient
la
d'entendre R-E-M, R-E-M en français.
R-E-M.
Pour un morceau qui s'appelait Chorus on the Ring.
Et bah Didier, et il n'aime pas. Et c'est pas ça qu'il voulait passer. Ce
normalement, ça aurait dû être Ben Harper, mais c'est pas grave.
Alors, Ben Harper, c'est pour plus tard.
Bon,
s'il
bref,
se trompe pas.
C'est pas grave. Donc maintenant, on va écouter Claire-Lise et Edith qui vont vous parler de réfugiés.
Claire-Lise en premier.
Donc, je vais vous parler de, déjà, mais je pense que vous aviez commencé à en parler un petit peu il y a 15 jours parce que je ne vous avais pas rejoint. J'étais là il y a un mois, donc c'est vrai que je tiens souvent la chronique sur les réfugiés et les migrants. Vous parlez du sommet de l'ONU qui a eu lieu au mois de septembre, qui aurait pu être un très grand sommet avec des décisions et qui a été en fait un échec lamentable. Donc je voulais revenir un petit peu là-dessus. Donc le 19 septembre 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a collectivement et spectaculairement failli à son devoir à l'égard des 21 millions de réfugiés dans le monde. Donc le sommet de haut niveau pour la gestion des mouvements massifs de réfugiés et de migrants devait résoudre la crise mondiale des réfugiés, alors que chaque jour, des millions de personnes qui fuient la guerre et les persécutions dans des pays tels que la Syrie, le Soudan du Sud, le Myanmar, l'Irak, subissent de terribles souffrances et d'intolérables violations des droits humains. Les dirigeants mondiaux, réunis lors de l'Assemblée générale, ont convenu d'un document final indiquant qu'ils allaient apporter leur aide, mais ils n'ont adopté aucun véritable plan. Donc des paroles creuses qui n'apportent aucun changement. Aucun effet de manche ne devrait permettre aux dirigeants mondiaux de trouver le confort à la suite de ce sommet. Ils ont échoué collectivement. Le fait d'accepter de coopérer pour résoudre la crise des réfugiés tout en évitant de prendre des mesures spécifiques ne constitue pas un progrès. Le fait de reporter à 2018 un plan d'action mondial ne constitue pas un progrès. Le fait de supprimer le seul objectif concret, c'est-à-dire la réinstallation de 10% des réfugiés chaque année, ne constitue pas un progrès. Tous les pays n'ont pas échoué cependant. Un petit nombre de pays, tels que le Canada, qui a accepté d'accueillir 30 000 réfugiés au cours de l'année écoulée, ont montré l'exemple. Mais la majorité a fait en sorte, au cours des mois précédents, le sommet, qu'aucun progrès ne soit réalisé. Donc ça a été un échec lamentable des négociations pour ce sommet de l'ONU. Et les dirigeants mondiaux ont laissé passer une occasion unique de résoudre la crise mondiale des réfugiés à l'issue des négociations. Et l'accord donc, qu'ils ont signé, en fait, ils ont signé qu'il reportait à 2018.
Voilà, bah, on verra plus tard. En fin de compte, c'est peut-être pas urgent, le problème des réfugiés.
Mais non.
Oui, c'est ça. Bon, ça m'énerve.
Ouais. Moi aussi.
L'expression, ça fout les miquettes.
Ça, hein. Ça énerve. Ça voilà. Énerve tout le monde.
Et
après, on s'étonne que les choses ne s'arrangent pas.
Voilà, ça ne s'arrange pas. Je vais vous parler un tout petit peu d'Evreux tout à l'heure, parce que ça fait plusieurs fois que je vous fais une mini-chronique sur ce qui se passe à Evreux. Là, je vais vous parler quand même de l'accueil des réfugiés en France, qui a besoin de vraies solutions et pas de démagogie. Donc, je pense aussi qu'on en avait commencé à en parler, parce que je me souviens que Didier l'avait un peu évoqué la dernière fois. Depuis plusieurs semaines, certaines personnalités politiques nationales ou locales s'expriment pour refuser l'accueil de réfugiés ou de migrants. On a même vu des marches citoyennes contre les migrants. Mmh. Attention, c'est beau. Les personnes qui fuient la guerre sont alors transformées en boucs émissaires. Les appels pour refuser l'accueil des réfugiés et des migrants ont pris particulièrement de l'ampleur avec l'annonce par le gouvernement français d'héberger sur le territoire des personnes réfugiées ou migrantes qui vont être évacués du campement de Calais. En parallèle, la France accueille des demandeurs d'asile transférés en France depuis la Grèce ou l'Italie. De même, des personnes réfugiées et vulnérables, principalement des Syriens, sont réinstallées en France directement depuis le Liban, la Jordanie, l'Égypte ou la Turquie. Ces mesures répondent à un contexte mondial particulier.
Le monde connaît sa plus grave crise de la protection des réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 21 millions de personnes n'ont d'autre choix que de fuir leur pays pour rester en vie, chercher refuge et le dernier droit à leur disposition. Et donc pour dire aussi que l'arrivée des migrants, ce n'est pas un appel d'air. Et dire que c'est un appel d'air et que si on les accepte, ça va provoquer une invasion, un afflux massif, c'est un travestissement de la réalité. L'inquiétude ou l'incompréhension d'une partie de l'opinion publique face à la question des réfugiés exige une réponse éclairée de la part des femmes et des hommes politiques français et l'adoption d'un discours responsable. Il n'y a pas d'appel d'air pour les réfugiés, qui sont au contraire poussés à fuir. Personne ne risque sa vie pour se retrouver dans un camp sordide en Europe. Il n'y a pas non plus un afflux massif vers la France. 86% des réfugiés dans le monde sont actuellement dans des pays en développement. En 2015, les 28 États membres de l'Union européenne, 500 millions d'habitants, ont pour leur part accueilli 1 million de demandeurs d'asile.
1 pour 500.
Voilà. Faire respecter les droits des réfugiés en France, la France doit assurer un accueil digne pour les demandeurs d'asile sur son territoire. Les autorités françaises, du national au local, je vais bientôt arriver à Évreux, sont tenues, par conséquent, de veiller au respect et à la protection de leurs droits. Il incombe donc aux responsables politiques de rechercher des solutions concrètes pour assurer le respect de ces droits. Donc les responsables politiques doivent, écoutez bien messieurs, condamner avec la plus grande fermeté toute atteinte volontaire aux biens et aux personnes visant les réfugiés et les migrants. Promouvoir au niveau local, écoute, la mise en place de conditions d'accueil des réfugiés conformes aux règles nationales, européennes et internationales sur tout le territoire français. Se fonder sur des données factuelles présentées de façon transparente sur la situation des réfugiés dans le monde et en France lorsqu'ils abordent cette question, en particulier avec la population et les médias. Valoriser et encourager les initiatives d'accueil de réfugiés au niveau local. Soutenir et renforcer l'implication de la France dans l'accueil de réfugiés vulnérables depuis les zones de conflit. Alors quand je disais écoute, c'est que je vous en ai déjà parlé. En fait, en France, il y a effectivement des lois pour accueillir les demandeurs d'asile. Et quand les personnes sont demandeurs d'asile, ils entrent dans un processus qu'on appelle le CADA. Et normalement, ils ont droit à un logement le temps qu'on examine leur demande d'asile. Ils ont droit à un logement, ils ont droit à une aide subsidiaire de l'État. Et actuellement, dans beaucoup de départements, il n'y a pas assez de place pour accueillir les demandeurs d'asile. Donc, au bout d'un certain temps, parce qu'on les laisse quand même un mois, deux mois, des fois trois mois à la rue, au bout d'un moment, on va les mettre dans les structures d'accueil qui sont normalement gérées par le 115. Et donc, quand il y a des gens à la rue qui ne sont pas demandeurs d'asile, mais qui attendent pour un titre de séjour, qui sont aussi des migrants, eh ben, pour eux, il n'y a plus de place. Donc, quand on appelle le 115 à Évreux, comme dans d'autres endroits, est débordé. Il y a parfois aussi des directives qui disent que si les gens sont sous le coup d'une OQTF, obligation à quitter le territoire français, on ne doit pas leur donner de droit à l'hébergement, ce qui est quand même tout à fait anormal. Je vous l'avais déjà dit l'autre fois, je vous ai raconté l'histoire de Dorcas. Là, cette fois-ci, je vais vous parler de Mimi, qui est aussi une réfugiée de RDC. Mimi, elle a fui la RDC il y a plusieurs années. Elle n'a plus du tout de contact dans son pays. Elle a été réfugiée au Mali pendant 5 ans. Et comme après, Boko Haram a commencé à envahir, etc., qu'il y a eu beaucoup de problèmes, elle a fui à nouveau le Mali. Elle est arrivée en France après une traversée très périlleuse en bateau, en passant par l'Italie. Elle est arrivée en France, elle est à la rue. Mimi, elle est enceinte de 8 mois et demi. Il a fallu attendre quasiment 3 semaines pour que le 115 finisse par accepter qu'elle ait une chambre à l'hôtel. Donc, il a fallu faire un courrier à la direction départementale de la cohésion sociale pour leur demander si c'était normal que cette femme enceinte de bientôt sur le point d'accoucher, parce que son petit enfant va naître d'ici 15 jours, soit à la rue. Il y a aussi Nancy avec sa petite fille qui, elle aussi, est originaire de RDC, qui a laissé tous ses enfants là-bas et son mari, elle ne sait pas s'ils sont encore vivants, qui est passée par la Lettonie, qui a connu les camps de rétention en Lettonie et où elle a connu le racisme aussi, la xénophobie. Et elle a réussi à ne pas être réexpulsée en RDC. Elle est arrivée en France et en France, à Évreux, elle est à la rue, alors qu'elle est demandeur d'asile avec une petite fille de 2 ans et demi. Donc moi, ça me révolte.
Je comprends que ça te fout les miquettes.
Ouais. Voilà, ça continue. Alors c'est vrai qu'on on arrive à des fois à obtenir des choses par rapport aux personnes vulnérables. Je comprends qu'effectivement, il n'y a pas assez de logements.
Avec une petite fille enceinte, on est quand même un tout petit peu vulnérable.
Oui, voilà. Et donc, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Hein. Moi, l'autre fois, quand je suis allée donner la bonne nouvelle à Mimi, j'ai vu un jeune homme d'une trentaine d'années, mais lui, il n'est pas considéré comme étant vulnérable, mais je voyais sa fatigue, son incompréhension. Et il disait, mais regarde, je suis sur une paillasse par terre, dehors. Enfin, il y a quand même des choses qui se passent à Évreux qui sont terribles. Voilà. Je ne sais pas si c'est le téléphone qui nous appelle pour nous dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais
pour nous proposer des logements, peut-être.
Appelez tous le 115. Faites exploser le standard.
Et puis, bon, ce que tu viens d'expliquer...
Dénoncer.
Ce que tu viens d'expliquer, Clarlis, ça montre clairement le manquement du respect des engagements de la France, enfin de l'État français, oui, par rapport à ses obligations. Parce que le droit des réfugiés, encore une fois, c'est quelque chose qui a été... Tous les textes ont été signés par la France. Et on n'a pas les... Enfin, on n'a pas... L'État ne se donne pas les moyens de faire héberger correctement ces gens-là.
Voilà. Donc, bah voilà.
Bien, écoute...
Dans 15 jours,
tu continueras à nous tenir au courant des anomalies locales, Clarlis.
Voilà. Et puis, si vous voulez, si vous êtes comme nous, pas d'accord, eh ben, on peut se retrouver ensemble aussi.
Oui,
hein.
Tout à fait. Venez nous soutenir. C'est seulement en faisant des actions et en étant nombreux qu'on oblige les gens à avancer.
Parce qu'à Évreux, il y a des logements vides quand même. On en voit comme ça en passant.
Alors après, c'est vrai qu'il y a eu une rencontre. Hein, je vous avais dit, il y a un collectif. Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails de cette
vous
rencontre.
Vous avancez.
Parce qu'il va y avoir une autre rencontre, je pense.
Donc, espérons que ça va progresser. Ça va progresser.
Et il y aura des réponses dans la presse.
D'accord.
Donc je ne vais pas griller les réponses qui vont être données dans la presse, mais ça a été quand même intéressant.
Tu nous transmets et on suit vraiment l'affaire.
Et ce qu'il faut dire, c'est qu'ils en sont conscients. Enfin, le préfet et la directrice de la direction départementale de la cohésion sociale, ils savent qu'ils n'ont pas assez de place. Après, ils renvoient vers le département en disant c'est eux qui doivent mettre en place les logements. Mais on leur dit quand même, oui, mais enfin, l'État, c'est quand même les représentants de l'État, c'est quand même vous. Bon, voilà.
Bon, alors, si je peux finir sur une bonne nouvelle rapport aux réfugiés. Alors, c'est un petit peu moins local, mais c'est sur le journal d'Amnesty pour les jeunes. Alors, est-ce que RESOM, ça vous dit quelque chose ?
RESOM,
ouais. C'est le réseau d'études supérieures et d'orientation pour les migrants. Eh bien, ce sont des étudiants, des enseignants qui ouvrent les portes des universités françaises aux réfugiés. C'est une manière de les sortir de leur enfermement et de leur permettre de se projeter dans l'avenir. Donc, c'est des jeunes qui ont décidé de s'investir de manière concrète. On cherche à sortir les réfugiés des catégories administratives dans lesquelles ils sont enfermés. On leur propose de s'inscrire et de partager nos études avec eux. Donc là, depuis un an, simplement 250 personnes, oui, c'est pas beaucoup 250, mais c'est quand même ça, sont inscrites et la liste des universités qui a rejoint le mouvement ne cesse de s'allonger. Paris, Lyon, Bordeaux, Lille. À terme, on voudrait qu'un demandeur d'asile ou un réfugié qui souhaite reprendre ses études puisse le faire et sache à qui s'adresser, quel que soit le lieu où il se trouve. Et les jeunes qui ont décidé ça, c'est aussi la médiatisation des naufrages, la médiatisation de la misère qui a fait un élément déclencheur pour passer de l'indignation à l'action. Et cet engagement ne déçoit pas ces jeunes. Émotionnellement, on vit des choses fortes. On rencontre des gens incroyables qui nous donnent envie de nous investir à 200%. C'est très riche aussi car cela me permet de faire mûrir ma réflexion politique et ma manière de s'engager collectivement. Eh bien, rejoignez les jeunes. Alors, une petite pause musicale ?
Oui, on peut écouter...
Alors, ne te trompe pas.
Quelques secondes de musique.
Je trompe, Didier, il est fâché.
de retour sur l'antenne de Principe
Actif. Je ne me suis pas trompé, Didier ?
Non.
Ils donc, sont
c'est,
contents.
C'est le groupe d'Amnesty International Évreux, on rappelle. Non, et Renaud a mis le bon morceau que j'avais pensé
le bon
à l'avant.
CD, le bon morceau. Trop
un morceau
fort,
de Ben Harcourt qui s'appelle Belle Odeille, c'est-à-dire des jours meilleurs. Et c'est tout ce qu'on espère à tout le monde, des jours meilleurs. On en a bien besoin. Donc, Renaud a une information, une bonne nouvelle à vous donner.
C'est une bonne nouvelle.
Puisqu'on parle de jours meilleurs, allons-y.
Bah, tout à fait, c'est une bonne nouvelle pour dire quand même que les actions urgentes, et ça fonctionne. Parce que Omar Hotfar a été libéré après une campagne mondiale. Donc, il y a une action urgente qui a été sortie par lui. Donc, grâce à cette action, il a été libéré. Irlando-canadienne de nationalité.
Oui, mais c'était dans quel pays?
Bah, en Irlande, Canada.
Alors là, t'as des questions.
Si elle a été libérée en Iran.
Iranienne. Elle est iranienne.
Non, mais c'était en Iran qu'elle était arrêtée.
Elle était emprisonnée en Iran.
Ah, d'accord.
Mais je disais qu'elle était irlano-irlando-canadienne.
Oui, oui, mais enfin, elle était en Iran.
C'est en Iran qu'elle a été arrêtée.
Bien sûr, c'est en Iran. Voilà. Et donc, il y a une action mondiale. Donc, on a écrit, comme d'habitude, et tout ça. Je suis désolé, ce soir, on n'aura pas le temps de faire un appel à l'action. Mais bon, pour dire que ça marche, donc elle a été libérée.
Allez sur le site d'Amnesty, signé.
Voilà. Ça fonctionne.
Tout à fait. Quelques informations locales, puisqu'on a quelques événements qui vont arriver rapidement maintenant. Donc, vous pouvez déjà noter sur vos agendas. Notre prochain rendez-vous hors radio, ce sera le 17 novembre, avec la scène nationale. C'est un jeudi, je crois, le 17 novembre, avec la scène nationale à 20h30 au Cadran. On sera présent dans un spectacle d'une pièce qui s'appelle « Nobody ». Et cette pièce traite en fait de la dignité humaine à travers un thème bien précis qui est la souffrance au travail. Donc on sera présent pour vous présenter les actions d'Amnesty.
Là, et vous pourrez signer en vrai
voilà.
aussi.
Et tout ce qu'on fait par rapport à cette notion de dignité humaine qui est aussi quelque chose de fondamental dans ce qu'on fait. Donc jeudi 17 novembre, 20h30 au Cadran.
Et notre actualité
locale,
comme d'habitude.
C'est aussi la traditionnelle exposition artisanale et foire aux livres. Qui aura lieu le dimanche 4 décembre à la Halle des Expositions, donc 10h à 19h comme d'habitude. Le 4 décembre, toute la journée, venez nous revoir. Là, c'est nous qui organisons tout. Et donc, on aura pas mal de bouquins à vendre, bien sûr.
Et bien, même les livres, on peut encore nous en amener, des beaux livres,
tout à fait.
Des livres.
Tout
toujours,
à fait.
Il faut du choix.
Donc, vous nous contactez amnesty.evreux@gmail.com disant que vous avez des livres pour nous, on vous les prend et on les revend en soutien à ce que fait Amnesty, il n'y a pas de problème.
Vos
donc, 4 décembre, on en reparlera, mais dimanche 4 décembre à la Halle des Expositions.
Et il faut qu'ils
trient
leurs
livres. Je sais que tu as dit au début de l'émission la date de notre prochaine émission, mais tu peux peut-être la répéter quand même.
Notre prochaine émission, c'est le 25 octobre. Mardi 25, dans 15 jours, à 19h, sur l'antenne de Principe Actif. Et maintenant, on va laisser la place au laboratoire.
Au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir, au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont...